partout en Île-de-France, écoutez les programmes d'IDFM sur 98 FM.
Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie, non, juste un peu à droite, oui, voilà, là. Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi.
Bonjour à toutes et à tous.
Bon appétit.
C'est l'heure de Big Bang
Station.
Nous sommes sur les
98 de la bande FM. Faut le savoir et j'espère que vous le savez de plus en plus. Ça, c'est noté sur vos calendriers, mon cher Didier.
En Île-de-France, dorénavant le mercredi à 21h sur IDFM et sur Facebook, Twitter, Instagram, Internet, Android, encore Spotify, Google Podcast, Radio Public, à au choix. Sur notre page, notre compte, notre site, notre appli, nos podcasts Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée sur de nombreuses radios. Il y en a de plus en plus. Vous retrouverez la liste sur notre site internet bigbangstation.fr. Big Bang Station, c'est un thème d'actualité depuis presque 26 ans, auquel les chroniqueurs politique, musique, cinéma, culture, sorties, high-tech, histoire, coup de cœur, collent le plus possible. Aujourd'hui, nous parlerons de cuisine.
Miam, miam.
Dans une première partie, nous parlerons des cuisiniers, en commençant par une journée qui leur est dédiée, petit Manu.
Hello, mon cher Didier, comment vas-tu? Ça va, mon cher Didier? Oh là là, bronzé, beau comme un dieu. Voilà.
Non, je suis pas bronzé.
Mais non, mais il y a des couleurs en tous les cas. En tout cas, effectivement, c'est le thème de la cuisine. Je vous parlerai des bonnes explications culinaires. Ça donne faim. Et c'est le péché capitaux. Je vous dirai ce qu'il faut savoir, des bonnes explications. Et il y a beaucoup de choses à dire. Le jeu en vaut la chandelle.
Les chefs, hein, c'est un secteur ultra masculin. Mais il y a des femmes qui ont su se faire une place aussi, hein, Ophélie.
Exactement. Nous verrons les noms des meilleurs chefs cuisiniers les plus connus en France, les plus populaires, mais également les noms des femmes chefs qui n'ont rien à envier à leur père masculin.
Et nous parlerons cuisine 2.0. Hein. Nous aurons la blogueuse Feria Nekash, journaliste pour le journal des femmes cuisine, qui a interrogé Kevin. William nous parlera en détail des solutions high-tech pour préparer un plat de manière plus pratique.
Effectivement Didier, et salut tout le monde. Pour cette émission, je vous parlerai de différentes solutions high-tech pour cuisiner qui n'en déplaisent à Philippe Etchebest.
Et il n'y a qu'un plat. Pardon, il n'y a qu'un pas.
Ah voilà.
Pour aborder la question du gaspillage alimentaire, comment lutter contre le gaspillage? Ronan tentera de répondre à la question. Après, une première partie sur l'état des lieux de la cuisine et de l'alimentation dans le monde, et d'une partie sur la cuisine 2.0, je vous propose une troisième partie sous l'angle santé et bien-être. Certains aliments font plus de bien que d'autres. Quels sont les aliments bien-être? Découvrez la liste de Monsieur Coccinelle. Non, c'est pas Monsieur Coccinelle, c'est Madame Coccinelle aujourd'hui.
On va l'applaudir. Oh là là, ça va?
Ça va très bien, merci.
Alors, Madame Coccinelle, c'est la première fois que tu fais de la radio?
La première fois, je suis ravie, enchantée de découvrir l'équipe de Didier. C'est vraiment super.
Bienvenue,
et
bienvenue.
T'as pas l'air trop stressé.
Ah non, non.
Et nous, on découvrira tes aliments, du coup, à bien-être. Et avant d'ouvrir notre page culture, Pierre nous fera découvrir des records du monde de cuisine.
Me revoilà sur Big Bang Station et je dois dire que ça fait du bien. Record sur les pâtes et sur la gastronomie en général.
Enfin, nous terminerons cette émission par notre page culture. Kevin va nous présenter sa playlist spéciale cuisine.
Salut Didier, salut à toutes et à tous. Bah, ça tombe bien car à cette heure-ci, il y a peut-être des auditeurs qui sont en train de faire la cuisine ou de manger tout simplement. Et moi, je suis là pour vous aider à cuisiner dans la bonne humeur en chanson.
Musicalement. Et puis tu débrouilles vraiment très très bien, cher Kevin.
Et nous accueillons une nouvelle chroniqueuse, Marilyn, qui va nous parler de cuisine au 7e art. Bienvenue Marilyn.
Bonjour Marilyn, ça va Marilyn?
En plus, t'as un nom qui colle au cinéma.
Oui.
Marilyn Monroe.
Ouais.
Exactement.
Ouais.
Ce soir, la chronique ciné vous mettra l'eau à la bouche, mais aussi réfléchir. On parlera de films, mais aussi de séries. Gardez de la place pour le dessert.
Et l'émission est réalisée par Lio.
Lio. Comment vas-tu, cher Lio? Lio, ta carie, la côte, ça monte, Lio.
Ouais, c'est toujours un plaisir de vous voir.
Eh ben voilà.
Plaisir partagé.
Et ça marche qu'avec toi, hein. Oh là là. Le début, le charisme, ça marche. C'est visionnel dans l'émission.
J'ai le charisme, petit Manu, merci.
Ah oh bah, le fait qu'on te mette en valeur.
Saviez-vous qu'il y avait 16 millions de restaurants dans le monde seulement, j'ai envie de dire.
Ah bon?
Je suis très étonné du chiffre. Alors évidemment, il y aurait, hein, parce que très difficile de tous les compter. Il y aurait 1 million de restaurants aux États-Unis. En même temps, ça paraît être beaucoup, mais finalement, ça ne l'est pas beaucoup. En France, on en compterait environ combien, à votre avis ?
10 000.
Non, plus.
100 000.
200 ?
78 000.
Ah ouais, quand même. Ah oui.
Et la première ville qui possède le plus de restaurants, c'est...
Paris.
Pas du tout.
Lyon. Ah bon ?
New York. New York.
Ah bon, Lyon ?
Non, non, en France. Hein.
Ah, oui. En France, pardon.
Lyon qui offre un restaurant pour 294 habitants. Puis Bordeaux et Paris arrivent bien derrière avec seulement un restaurant pour 410 habitants.
Mais et ça m'étonne pas d'y aller parce que c'est vrai qu'effectivement à Lyon il y a des très bons restaurants et quand on y va c'est répandu, il faut bien connaître et ça, ça me surprend pas. Alors là.
Et quel est le pays qui possède le plus de restaurants au monde ?
La Chine.
Presque.
Les États-Unis.
Les États-Unis peut-être.
Non. Le Japon.
C'est entre les deux. Le Japon.
Le Japon. Alors là on apprend des choses.
C'est... Mais c'est évidemment la France qui a le plus grand nombre de restaurants étoilés au monde. Mmh. La gastronomie française est d'ailleurs inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité depuis 2010. La cuisine est avant tout un art et il fallait bien une journée spéciale dédiée aux cuisiniers, comme va nous l'expliquer Petit Manu.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald, hop. Il arrive. Milton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina, oui, Kendrick.
Vous trouvez Petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les travaux, ça. Non. Monsieur, je reprends les très bonnes explications de notre cher Didier. La cuisine internationale des cuisiniers est appelée...
Journée. La cuisine internationale.
La journée internationale des cuisiniers. Voilà, grandiose, Didier. Est appelée journée internationale des chefs. Et célébrée chaque année le 20 octobre depuis, à votre avis, depuis combien de temps ? Très bonne question à toute l'équipe Didier, dans le secret des dieux, mais les autres.
Moins 5000 avant Jésus-Christ.
2000 et dans, les environs, à votre avis.
2004.
Dans le mien, Ophélie.
Sérieux ?
Ben tout à fait, depuis 2004, effectivement. Elle vise à sensibiliser le public et aux réalisations, aux mérites et à l'importance de tous les hommes et femmes qui travaillent en tant que cuisiniers afin de susciter une reconnaissance de la profession de chef cuisinier. La journée internationale des cuisiniers est une journée pour célébrer les connaissances culinaires et souligner l'importance de leurs compétences, de leurs connaissances et de leur contribution à l'industrie hôtelière. C'est une journée où les chefs transmettent les connaissances et les compétences de la génération des chefs. Et en même temps, il y a aussi, comme tu disais très bien, Ophélie, on en parlait, il y a la journée internationale Chef Day. Je pense pour un petit
peu. International Chef
voilà.
Day.
Alors, c'est le nom non original. C'est une journée anglo-saxonne qui est aujourd'hui mise en valeur par le Watch. C'est la Fédération mondiale des sociétés des cuisiniers et qui se prépare elle-même comme journée mondiale. Et à votre avis, c'est le rejet, ça remonte à combien de temps cette journée ?
Cette association.
Ah là, je sais pas.
Ah, vous voulez ?
1992.
Non, 1928. 1928, donc il fallait savoir tout ce que ça veut dire. Bon, en tout cas, bravo, Philippe.
Et petit Manu, mais quel est le thème de cette année ?
Ah, bah, tu sais, il y a beaucoup de choses, hein. Ça dépend.
Il y a un thème spécifique cette année.
Ça dépend les moments. Mais par contre, je sais que.
Non, tu réponds pas à la question.
Un thème précis.
Quel est le thème ?
T'as pas fait ton boulot.
Si, je fais. Et pour ce moment,
non, c'est Karen qui te l'a corrigé.
Non, mais je sais. Comme en ce moment, on a tous envie de dormir, rester à la maison.
D'ailleurs, je tiens à remercier Karen qui corrige tes textes.
C'est vrai.
Parce que tu lui as envoyé 9 pages et elle m'a dit j'en ai mis 8,5 à la poubelle.
Voilà. Non, mais j'ai envie de te répondre quelque chose au fil. J'ai de la répartie. Comme en ce moment, on a très envie de dormir.
T'as de la répartie, mais est-ce que t'as sa réponse ?
Non, mais je réponds. Eh ben, je vais te répondre. Qu'on peut faire à la maison, faire des gâteaux, des crêpes.
Non, c'est pas ce qu'on te demande.
Bah, si, je réponds à sa question.
On te demande le thème de cette année.
Le thème ? Alors là, tu vas m'apprendre quelque chose parce que je savais pas qu'il y avait un thème.
Il y a un thème. C'est le How Healthy Food Works. En français, ça donne comment fonctionne une nourriture saine. Et là, ça rejoint presque ta chronique.
Oh, Ophélie, alors là, tu m'apprends quelque chose.
Ça la complète.
Ah, t'as rien, j'avoue. Là, je suis bouche bée, main de velours.
Ça la complète comme une galette.
Oh, alors là, j'avoue, je m'incline, moi qui parle beaucoup.
Pour info, Didier, l'épiphanie, c'est en mois de janvier.
Bah, il est prêt, il est dans les starting blocks.
Non, mais les galettes, les crêpes, tu vois.
Oui, oui.
Ah, d'accord. Ah, les galettes bretonnes. Ah,
bah voilà. Ah, bah, ça s'appelle, oui, les crêpes et les sarrasins avec un peu de scie. Bah, alors là, tu m'apprends quelque chose. Je suis bouche bée, hein. Bravo, Philippe, tu peux être très fier de toi.
Et alors, le voilà. Plus célèbre des cuisiniers, c'est qui, à votre avis?
Cyril Lignac.
En France?
Dans le monde. Il est français.
Monsieur Bocuse.
Ducasse.
Ah, bah, il y en a plusieurs.
Alors, attends. Tu dis Lio
Ducasse.
Non.
Paul Philippe Etchebest.
Ah oui,
Paul Bocuse qui incarne le mieux la cuisine française pour 56% des Français. Il est suivi par Alain Ducasse. Puis, allez, le troisième.
Il y a peut-être
Lignac.
Cyril Lignac.
Etchebest.
Ah bah non, Philippe Etchebest, justement, il retient les restaurants qu'on a des petits
problèmes. Petit Manu croyait que c'était un fromage.
Joël Robuchon.
Joël Robuchon. Bon, pas du tout.
Le retraité Joël Robuchon.
Ouais. C'est Didier qui fait ça pour me taquiner. Moi, j'apprends un petit peu. Voilà.
C'est un secteur ultra masculin, mais on constate aujourd'hui une véritable montée en puissance des femmes dans le secteur. En 2021, on décompte ainsi 39 femmes étoilées Michelin en France, contre 33 en 2020 et 27 en 2019. Quelles sont les femmes qui ont su se faire une place? Ophélie nous présente ses chefs talentueuses. Notre nouvelle chroniqueuse Ophélie.
Attention, concentration maximale.
Timanu est très fier, pour une fois il connaît le président ukrainien.
Non mais là,
on parle que de lui.
Oui, bah je sais, mais pour
il s'appelle comment?
Ah bah c'est un certain président, le président.
Ouais, mais il a un nom et un prénom.
Oui, Vladimir Poutine.
Zelensky.
C'est pas vrai.
Ophélie va nous parler de sortie.
On est capté, vraiment médusé. Vous 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 rendez bien compte en l'écoutant.
T'es bourré?
Non, ému. À quelque chose, hein.
Avant de vous présenter les chefs les plus populaires en version féminine, je souhaitais revenir sur les chefs populaires en France qui, pour beaucoup, ont vu leur popularité grimper grâce à des émissions culinaires. Où ça?
Sur M6.
À la télé.
À la télévision,
oui,
à la radio aussi.
Sur M6, exactement, voilà. À la radio.
Tout
exactement.
À fait aussi.
Alors, nous avons effectivement, je vais pas mettre dans l'ordre parce que j'ai pas envie de faire un top 10 avec le numéro 10, le numéro 1, mais Didier, tu en as parlé, il y a Paul Bocuse, effectivement, Joël Robuchon, Philippe Etchebest, vous connaissez Philippe Etchebest.
Ah oui.
Il est incroyable, il a une personnalité incroyable, un caractère bien trempé, et si vous vous rappelez bien, il a joué un rôle, il a été juré dans Top Chef.
Oui, et en même temps, ce qui est formidable, il fait même de la musique aussi, mais c'est vrai qu'il est avec sa pêche au début. Faut pas lui chercher le bout de la tête.
Il a un sacré caractère, mais il a vraiment un grand cœur.
Et je crois que ceux qui font de la cuisine, ils ont un grand cœur en or. C'est ce qu'on dit.
C'est vrai.
Leur réputation.
Pour partager.
Exactement.
Le partage.
Exactement. Tout à fait.
Ensuite, il y a aussi Guy Savoie, Yves Candebordes.
C'est vrai.
Il s'est fait connaître auprès du grand public avec l'émission Masterchef. Nous avons Jean-François Piège, Thierry Marx. Et puis Cyril Lignac et une femme.
Maïté.
Ah, Maïté.
Non. Maïté. Oh là là. Bah, franchement, Maïté, elle est dans le cœur des Français, mais au niveau popularité grâce aux émissions, c'est pas Maïté. C'est
Hélène Darroze, bien sûr.
Et puis, voilà, Hélène Darroze, merci beaucoup. Et donc, cette femme chef, son nom est associé à l'émission Top Chef. Donc vraiment, on a vu avec la télé, et surtout pendant la période du Covid, que les chefs ont pris leur place à la télé et ont fait partie du quotidien des Français.
Je pense notamment au succès de, je ne l'ai pas beaucoup regardé, j'avoue, mais au succès de Cyril Lignac, l'après-midi,
oui,
en
chef.
Fin de journée, oui, tout à fait, qui a été un véritable carton sur M6.
Ça fait un carton, même moi, j'étais devant, j'avais aucun ingrédient dans mon frigo dont j'avais besoin, mais je regardais du début jusqu'à la fin et je trouvais ça génial.
Aussi parce qu'il parlait directement aux Français.
Exactement, avec ses invités qui faisaient de temps en temps n'importe quoi, on est d'accord, mais en tout cas c'était un bon moment pour tous, je pense.
Et aussi je pense à un petit jeune qu'on ne pense pas, Norbert aussi, qui parle de la cuisine aussi, mais il a son mot à dire, mais il parle aussi de la cuisine.
Norbert qui fait beaucoup le tour des pâtisseries avec son émission.
Voilà, il manque pas d'imagination, faut en te dire compte.
Alors, je poursuis avec nos femmes chefs, parce que pour respecter la parité homme-femme dans cette chronique, je souhaite mettre en lumière des femmes chefs talentueuses, sept femmes triplement étoilées dans le monde qui n'ont rien à envier à leur père masculin. Parmi ces 7 femmes, 4 françaises, et parmi ces 4 françaises, nous retrouvons Hélène Darroze. Bien entendu, mais aussi Anne-Sophie Pic, à la tête de plusieurs restaurants à Paris, à Londres ou encore à Singapour. Dominique Crène est également triplement étoilée dans le monde. Elle est installée à San Francisco depuis l'âge de 21 ans. C'est une chef d'origine bretonne qui a décroché le Graal fin 2019 pour son restaurant atelier Crène, où elle propose une cuisine pleine de créativité et de poésie. Tout comme Hélène Darroze, Clare Smith a reçu sa 3e étoile au Guide Michelin le 25 janvier 2021. Et avant d'ouvrir son restaurant Cor à Londres, la chef avait fait ses armes chez Percy à New York ou encore dans l'établissement 3 étoiles de Gordon Ramsay à Londres. Je finirai par une autre Française triplement étoilée au Guide Michelin, Annie Feold, qui est née aux alentours de Nice mais installée en Toscane, en Italie, depuis ses études. Son restaurant Enoteca Pinchiori, je ne suis pas italienne, je ne sais pas comment le prononcer, qui est à Florence, est distinguée de 3 macarons depuis 1992, faisant d'elle la première femme à recevoir 3 étoiles en Italie. Après avoir cité autant de noms prestigieux, il est bon de rappeler que les grands chefs ne sont pas seuls dans leur restaurant. La passion et l'engagement de leur équipe fait partie de leur succès qui les mène vers les étoiles. Que vous soyez plongeur, commis de cuisine, aide-cuisine, cuisinier, seconde cuisine, chef de partie, votre rôle est essentiel, vous êtes incontournable et nos papilles vous remercient.
Et je salue la montée en puissance des femmes dans la cuisine, c'est une très bonne chose.
Moi, je te féliciter personnellement, tu sais pourquoi ? Parce que nous, on nous connaît, mon sang, la façon dont tu parles, c'est comme si on jouait en Big Bang. Nous, on a du mal à démarrer, et toi, tu démarres, franchement. C'est comme une sensation, franchement, une confiance en toi. Je voulais te féliciter, bravo, encore une fois, tu as toutes mes admirations, Philippe.
Si je suis les conseils de Didier.
Ah, tu vois, quand
Didier, merci,
elle suit l'école Didier, tu vois.
Et si vous aussi, vous voulez devenir chef, ou si vous voulez apprendre à cuisiner hein, pour le plaisir, il y a plusieurs ateliers qui donnent des cours, comme l'atelier des chefs dont nous avons au téléphone Nicolas Bergerot, son cofondateur. Bonjour.
Bonsoir.
Vous donnez des cours de cuisine aux débutants comme aux confirmés ?
On donne des cours de cuisine à tous ceux qui ont envie de redécouvrir ou de découvrir tout simplement le plaisir de cuisiner. Donc oui, des débutants et des confirmés, ça fait 18 ans que ça dure.
D'accord, ce sont des cours de cuisine française uniquement ou il y a de la cuisine du monde ?
Non, il y a de la cuisine du monde aussi. En fait, ça a pas mal évolué. Autant en 2004, quand on s'est lancé, c'était très cuisine française. Et depuis, il y a de plus en plus de demandes pour les cuisines dites exotiques et cuisines du voyage. Les gens voyagent de plus en plus et donc, ils ont envie de retrouver dans leur cuisine les saveurs qu'ils ont découvertes pendant leur voyage.
Combien coûte un cours à peu près de cuisine ?
Alors, à peu près, c'est compliqué à dire parce que ça va de 19 à 79 euros.
D'accord.
19 euros, c'est le cours en une demi-heure à l'heure du déjeuner où vous cuisinez pendant une demi-heure, vous mangez ce que vous avez préparé et hop, vous repartez au bureau ou vous repartez à la maison. Et 79 euros, ça va être pour un cours un peu plus technique qui dure 2 heures et sur lequel on va prendre un peu plus de temps pour étudier plus de techniques.
Alors les cours, hein, je suppose, s'adressent à tous les publics, mais quels sont ceux qui viennent le plus aux cours ?
Alors, les cours de l'heure du déjeuner, clairement, on a des actifs urbains qui travaillent généralement pas très très loin de nos ateliers, parce que même si le cours est assez rapide, pour une pause déjeuner, on peut pas venir de très très loin. Hein. En revanche, pour les cours de 2 heures, qui ont lieu le matin, l'après-midi et même les week-ends, bah là, on a une population beaucoup plus variée, des gens qui viennent pour le plaisir, des gens qui ont reçu une carte cadeau qui leur permet de venir prendre un cours. Et puis, on a aussi, en fait, beaucoup d'entreprises qui viennent faire du team building, des cours de cuisine avec des clients, des prospects, des collaborateurs. Tout le monde cuisine tous ensemble et ensuite, on mange ce qu'on a préparé.
L'atelier des chefs existe depuis combien d'années ?
Depuis 2004, 18 ans.
18 ans. Et du coup, quelle évolution vous avez vue dans le public qui veulent tout simplement apprendre à cuisiner ?
Alors et là, il faut fermer un tout petit peu les yeux pour se souvenir qu'en 2004, il n'y avait pas Cyril Lignac, il n'y avait pas Top Chef, il n'y avait même pas Facebook et Instagram. Donc
on a l'impression que ça existait depuis la nuit des temps, mais non.
Eh ben oui, eh ben non, eh ben non. Et en fait, en 2004, c'était le moment où les gens ont commencé à se dire j'en ai marre de manger des plats cuisinés, mais je ne sais pas cuisiner parce que maman m'a pas appris et j'ai envie d'apprendre à cuisiner, mais pas forcément des recettes très compliquées. Et donc, c'est à ce moment-là que nous, on est arrivé avec notre solution assez innovante de cours de cuisine à l'heure du déj et de team building pour les entreprises. Au début, c'était, on avait plus de femmes que d'hommes et sur une cuisine assez traditionnelle. Et puis maintenant, ça s'est complètement équilibré entre les hommes, les femmes et même les enfants. C'est toutes les cuisines françaises, étrangères, avec ou sans viande, enfin, ou sans protéines animales. Enfin, voilà, on a varié les contenus et puis on a innover sur les formats avec des cours de cocktail, des cours où on mixe les accords mets-vins, etc. Donc on a à peu près toutes les offres pour tous les types de publics.
Alors je suppose qu'avec la télé-réalité, hein, vous avez de plus en plus de jeunes qui viennent.
Alors on a objectivement un peu tout, oui. Je sais pas si c'est la télé-réalité ou tout d'un coup la prise de conscience que ce qu'on mange est important. Les jeunes sont probablement plus sensibles que les moins jeunes à ce qu'ils se mettent dans la bouche. Et donc, ils sont prêts à faire un peu plus d'efforts pour choisir leurs ingrédients et faire des bonnes recettes équilibrées et pas forcément manger des produits ultra transformés comme leurs parents, donc nous, avons pu le faire éventuellement.
Et quels sont les plats qui plaisent le plus ?
C'est pas tant un type de plat que des plats qu'on peut refaire chez soi. Et c'est un peu notre marque de fabrique à nous, c'est que quand on fait des cours de cuisine en une demi-heure, c'est pas pour le plaisir de faire des cours qui vont vite, c'est parce que ça veut dire qu'on va apprendre aux gens à faire des recettes assez simples avec des ingrédients qu'on trouve très facilement et qu'on va pouvoir refaire chez soi. On montre des cuissons rapides, on montre comment on fait la bonne cuisson d'un pavé de bœuf, d'un filet de poisson ou même d'une poêlée de légumes. Voilà, il faut que ce soit des recettes simples que les gens peuvent refaire chez eux. Et puis après, il y a quand même les cours de macarons et quelques cours de foie gras qui fonctionnent très bien. Parce que cette année, on va même pas pouvoir faire de cours de foie gras parce que les cours du foie gras sont tellement envolés qu'on peut plus faire de cours autour du foie gras.
Ah oui, vu le prix.
Oui, bonsoir Nicolas, bonsoir, c'est Ophélie. J'avais une question justement, vous parliez d'avoir un petit peu deux facettes de la cuisine, celle qui est très élaborée et celle qui est plus proche de la vie de tous les jours. Est-ce que ça vous arrive de conseiller des étudiants qui n'ont pas beaucoup de budget justement et qui n'ont pas forcément énormément de choses dans leur frigo pour les aider à faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire avec des produits qui sont très basiques?
Alors nous, on conseille tous ceux qui nous demandent des conseils, bien sûr. On avait lancé il y a quelques années un petit livret de 30 recettes à moins de 2 euros à l'époque. Alors c'était il y a 10 ans, hein, donc maintenant il faudrait peut-être passer à 3 euros quand même. Mais donc, ce qu'on dit nous, c'est que cuisiner, c'est quand même la façon la plus économique, la meilleure pour la santé et la plus conviviale de se nourrir. Quand on cuisine toujours pour partager avec quelqu'un. C'est très rare qu'on cuisine pour soi tout seul. Quand on cuisine, on choisit combien de gras, combien de sucre et combien de sel on peut mettre dans son assiette. Et quand on cuisine, on achète des ingrédients et on conseille d'acheter des ingrédients de saison. Et les ingrédients de saison, c'est les ingrédients les moins chers. Sans avoir un parti pris pour conseiller les étudiants, effectivement, on n'hésite pas à dire que nos recettes, avec quelques euros de coût matière, on arrive à les refaire à la maison.
J'ai lu aussi qu'on pouvait être diplômé de l'atelier des chefs.
Alors ça, c'est une autre formation. Alors pour le coup, c'est une vraie formation professionnelle. On a lancé il y a quelques années des préparations digitales au CAP cuisine, CAP pâtissier et CAP boulanger. Et donc, en effet, maintenant, on peut se préparer au CAP cuisine avec une formation 100% digitale de l'atelier des chefs. Et là, pour reprendre la question d'Ophélie, c'est assez rigolo parce qu'on a pas mal d'étudiants qui, dans le cours de leurs études, passe en plus le CAP cuisine pour avoir un double diplôme. Et donc, on peut faire une formation pour acquérir ce diplôme qui, après, ouvre de grandes perspectives dans les métiers de la restauration. Et puis, en fait, ça a tellement marché que maintenant, on s'est ouvert à plein d'autres métiers d'artisanat et du service à la personne, comme la plomberie, l'électricité, l'esthétique ou la coiffure.
Bonjour Nicolas, moi je me présente bien Manu. Je voulais vous poser une question. Déjà, un jeune qui vient dans votre école, faut déjà qu'il ait des réussites, je veux dire quelque chose, un diplôme. Je sais que les gens qui font de la cuisine, ils ont un grand cœur, mais au début, quand on est jeune, qui sait quoi les qualités nécessaires qu'il faut avoir comme bagage, la motivation, mais d'autres, peut-être un instinct pour sentir. Je tenais à vous poser la question, Nicolas, et toute l'équipe de radio de Didier, justement.
Alors, pour se lancer dans les métiers de la restauration, il faut beaucoup de bonne volonté, beaucoup de motivation, et une belle capacité de travail. Parce que effectivement, c'est un métier, j'aime pas quand on dit que c'est un métier dur, parce que c'est pas un métier dur en tant que tel, parce que vraiment, on gagne tellement à servir des belles assiettes, que ce soit en cuisine ou en salle, hein, d'ailleurs, que vraiment, moi je trouve que c'est le retour sur investissement personnel est fort. Mais oui, c'est quand même un métier dans lequel on est souvent debout, dans lequel on travaille le soir, dans lequel on peut travailler le week-end. Alors les restaurateurs ont fait d'énormes efforts maintenant pour aménager des horaires un peu plus souples pour leurs collaborateurs. Mais oui, vous avez raison, pour être un bon cuisinier, pour être un bon chef de cuisine, il faut être avant tout généreux. Et ça, c'est des qualités qui sont très importantes, j'ai envie de dire, dans les métiers de la restauration, mais aussi dans tous les métiers de l'artisanat et du service à la personne.
Où est-ce qu'on peut, vous donner des cours à peu près dans toute la France, dans les grandes villes ?
Alors, on a 9 ateliers en France, à Paris, à Rueil-Malmaison, et aussi à Lyon, à Lille, à Toulouse et à Aix-en-Provence. Donc ça, c'est pour les ateliers physiques dans lesquels on peut prendre des cours de cuisine, ce dont je parlais tout à l'heure, là, à l'heure du déjeuner, l'après-midi ou le dîner. Et puis pour la formation digitale au CAP cuisine ou au CAP pâtissier ou au CAP boulanger, bah bien sûr, c'est totalement accessible pour tous en ligne. Et vous retrouverez toutes les informations sur nos cours et sur nos formations sur www.atelierdeschefs.fr.
Eh ben merci Nicolas Bergerocco, fondateur de l'Atelier des Chefs.
Merci beaucoup et à très bientôt et bonne cuisine bien sûr.
Près de 39 millions d'internautes ont visité des sites et des applications de recettes et de restaurants. Le web se met à la cuisine, comme va nous l'expliquer la blogueuse Feria Nekash, que Kevin a interrogé.
Comment est née ta passion pour la cuisine, Feria ?
Déjà, je te dis, je suis très gourmande, j'aime manger, j'apprécie manger. Genre, vraiment, pour moi, c'est un moment, tu vois, c'est un moment que j'attends dans la journée, que ce soit des repas. Je prends toujours mon goûter, par exemple, tu vois, c'est bête, mais je prends toujours un goûter l'après-midi. Et pour moi, la cuisine, c'est vraiment un moment de partage avant tout. Et là, par exemple, je reviens, comme je te l'avais dit, j'étais en week-end gastronomique avec la Vallée de la Gastronomie. Et c'est vraiment, c'est manger, certes, mais c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, on a rencontré les producteurs, les viticulteurs. Enfin, on a rencontré plein de gens qui permettent à l'assiette d'être aussi bonne après. On a eu des grands moments d'échange avec les chefs, etc. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est manger avec des gens qui aiment manger et rencontrer les gens qui nous permettent de bien manger.
Est-ce qu'il y a un plat ou plusieurs que tu aimes cuisiner ?
Moi, je suis très sucrée, donc j'aime beaucoup les gâteaux en général et je fais pas toujours les mêmes, vraiment pas, ça dépend, les gâteaux au chocolat j'aime beaucoup mais parfois je vais faire des brownies, parfois ça va être des gâteaux au chocolat avec du lait de coco, parfois des cookies, enfin voilà, mais j'aime beaucoup les pâtes aussi parce que j'aime bien m'amuser à travailler les sauces. Donc ça, c'est un repas assez rapide que je fais très souvent, avec des sauces différentes.
Peux-tu nous parler de ton blog The Fatty Feria ?
Ça fait un peu plus d'un an que je me suis lancée, parce qu'en fait, comme je te disais, j'allais très souvent au restaurant. C'était quasi quotidien. Puis j'avais envie de tester plein de choses et on y allait très souvent avec mes amis, ma famille. Et à un moment, je me suis dit, mais en fait, je me suis inscrite sur TikTok, j'ai créé un compte. Et j'aimais trop regarder les vidéos des autres. Je me suis dit, mais moi, je suis toujours au resto. Pourquoi je posterais pas mes adresses, moi aussi? Et c'est comme ça que ça a commencé. Au début, je postais uniquement des adresses. Parce que, voilà. En plus, moi, c'est mon travail, en fait. Je suis chef de projet digital à côté. Et je travaille avec des restaurateurs et des marques comme ça de food, des magazines food. Donc ça a été une continuation. Et puis maintenant, j'incorpore un peu plus de recettes à mes réseaux parce que je cuisine beaucoup aussi à la maison. Donc c'est un peu de recettes, un peu de resto.
Merci à Feria Nekash, journaliste pour le journal des femmes cuisine, et à Kevin qui l'a interrogé. 7 Français sur 10 aiment faire la cuisine et ce sont les jeunes Français, hein, plus de 70% des 18-34 ans qui aiment le plus souvent cuisiner. En effet, seulement 64% des 65 ans et plus aiment faire la cuisine. Ce n'est peut-être pas si étonnant que ce soit les jeunes qui cuisinent le plus, car c'est une population qui utilise plus des robots ménagers, des tablettes spéciales pour la cuisine, mais aussi des objets connectés. William nous parle en détail des solutions high-tech pour préparer un plat de manière plus pratique. William est connecté jusqu'au bout des doigts.
Ce soir, dans ma chronique high-tech, je vais vous présenter différentes applications pour tenir ces bonnes résolutions.
Appli Objet Connecté, retrouvez la sélection de William.
Oh, mais qu'est-ce qu'on fait pas de nos jours ?
On commence avec un restaurant parisien qui se nomme le Wose Bar, qui a équipé son personnel de smartphones, de tablettes et de montres connectées de chez Samsung pour gérer les commandes. Afin de mieux comprendre, le procédé est le suivant. Tout d'abord, le serveur utilise son smartphone pour faire la prise des commandes auprès des clients assis à leur table. Ensuite, via une tablette, les cuisiniers reçoivent les commandes avec les plats à préparer. Quant aux montres connectées, elles servent aux échanges entre les serveurs et la cuisine pour, par exemple, signaler que le plat est prêt ou encore informer que le plat a été servi. Pour le responsable du restaurant, le système mis en place apporte fluidité et gain de temps, mais aussi il lui permet d'avoir un œil sur ce qui se passe dans son établissement. Autre remarque que je peux faire à ce sujet, c'est quelque chose d'écologique, car en effet, cela évite d'utiliser du papier. On enchaîne avec les Google Glasses, qui peuvent servir pour la préparation des plats. Plus concrètement, ces lunettes connectées donnent en temps réel les instructions sur les étapes à suivre, pas à pas et de façon précise. À vrai dire, c'est bien pratique car cela permet aux cuisiniers du restaurant chic du 11e arrondissement de Paris de ne pas rater son gratin dauphinois. Pour rappel, les lunettes connectées de Google ont été retirées du marché en 2015 à cause d'un échec commercial, mais ils ont fait leur comeback en 2019 à destination des professionnels qui sont exclusivement des entreprises en partenariat avec le moteur de recherche. On termine la sélection avec une technologie que j'ai déjà évoquée pour l'émission sur les crêpes, c'est l'imprimante 3D. En effet, cet appareil qu'on utilise pour fabriquer des objets avec des fils de plastique peut aussi servir à fabriquer des petits plats. À titre exemple, l'entreprise The Sugar Lab, qui est basée aux États-Unis, fait appel à l'impression 3D pour ses créations sucrées. Comme autre exemple, l'impression 3D peut aussi servir à fabriquer des pizzas. Avant de finir, j'en profite pour vous faire mon coup de cœur sur un influenceur d'origine suisse. Il se nomme Claude Luizier et dans la vraie vie, il est affineur de fromage. Dans ses vidéos qu'il réalise depuis sa cave, il explique les différents types de fromage et ce avec passion. Ces derniers temps, il a réalisé des vidéos où il a goûté la vache qui rit et le Babybel et pour info, il a plutôt aimé la vache qui rit. Pour le découvrir, sa chaîne se nomme Luizier Affineur. C'est tout pour moi, soyez des vrais cordons bleus et je rends le micro.
Merci William. 10 millions de tonnes d'aliments consommables partent chaque année à la poubelle en France. Un Français jette par an 29 kilos de nourriture.
Alors qu'on pense qu'il y a beaucoup de gens qui meurent de faim.
Je crois que c'est beaucoup.
Ça fait quelque chose.
Tu as raison de croire.
Évidemment.
Comment lutter contre ce gaspillage alimentaire ? Élément de réponse avec Ronan.
Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau. Hein. C'est loin mais c'est beau.
Je vous demande de vous arrêter.
C'est la chronique politique de Ronan.
Au revoir.
Ah, l'alimentation, la bouffe, la bonne pitance, voilà un bon et large sujet politique qu'on peut voir lors de cette émission qui peut être abordé de plein de manières différentes, notamment sur la malnutrition. Mais aujourd'hui, on va en parler de façon un peu différente car on va aborder la problématique du gaspillage alimentaire. Comme le disait Didier en introduction de cette émission, on estime que 10 millions de tonnes, 10 milliards de kilos de denrées alimentaires sont jetés par an en France. Et oui, tout simplement. Et non, Lio, tu es pas le seul responsable quand tu jettes la fin de ta danette. Je te vois avec tes yeux de coupable. Et oui, car selon une étude de l'ADEME de 2016, 18% de la production alimentaire destinée à la consommation humaine serait ainsi jetée, un tiers par la production agricole, 20% lors de la transformation, 15% pendant la distribution, 14% par la restauration et près de 20% par le consommateur directement. Je te vois Kevin aussi et je vous vois tous, nous sommes tous coupables autour de la table, c'est pas grave. À l'échelle individuelle, on le voit d'ailleurs, ça concerne évidemment tout le monde, c'est systémique, c'est global. Et à l'échelle individuelle, on peut notamment lire sur le site du ministère de l'écologie que nous pouvons économiser 100 euros chaque année en adoptant de bons comportements. Comment au niveau individuel, vous connaissez les gestes. Il faut consommer tous les produits cuisinés ou les conserver dans des boîtes hermétiques ou les congeler, cuisiner les restes, manger les fruits et légumes les plus endommagés. Alors, est-ce le rôle d'une chronique politique de donner des conseils alimentaires? Ça écorche.
Un lapsus révélateur.
Voilà, c'est ce que je disais.
Alors, est-ce le rôle d'une chronique politique de donner des bons conseils alimentaires? Eh bien non, on va s'arrêter là, car évidemment, c'est plus complexe que cela. Je ne vais pas non plus vous parler du niveau législatif, car pas moins de 6 lois ont été adoptées sur le sujet, où ils font référence depuis 2015, une par an pratiquement, notamment car le pays s'est fixé comme objectif de réduire le gaspillage alimentaire d'ici 2025 de 50%. Noble objectif, intenable, car en fouillant dans ces lois, on peut voir par exemple que les distributeurs de plus de 47 mètres carrés doivent maintenant proposer des conventions de dons à des associations d'aide alimentaire. Putain, tu m'as cassé ma vanne. Mais le gars, il arrive, casse ma vanne. Mais parce que je voulais juste te dire que honnêtement, moi, j'en vois des commerçants qui jettent encore les denrées alimentaires et j'ai pas vu ça obligatoire. Et qu'est-ce que tu voulais dire? Excuse-moi.
Je voulais dire très bien. Et ben, moi, à l'époque où elle était vivante, je pense que ça continue toujours, parmi toutes les associations qu'on lutte contre le le gaspillage, et ben le CCFD, où justement on va dans des pays, on aide les pays pour aider, pour essayer de qu'il n'y a plus de gaspillage. Le CCFD, hein, c'est très important.
Là, ce serait plutôt des associations locales comme Resto du Cœur,
justement pour aider, pour lutter contre le gaspillage.
De... Oui, voilà.
Religieux, mais important de, il continue dans le monde entier. Reprends, mon cher.
Bien sûr, mais sur, mais très, très très bonne intervention, mon cher Manu. Autre chose, dans une loi de 2008, depuis le 1er juillet 2021, vous ne savez pas, parce que moi je l'ai appris en le lisant, il y a le gourmet bag, plus connu sous le nom de Doggy Bag, évidemment, est obligatoire dans les restaurants pour les clients qui en font la demande. Ah, sérieusement, je ne savais pas non plus. Arrêtez de penser à votre image et d'avoir peur d'être un radin ou un raccro. Allez au Ritz ou dans votre bistrot de quartier, mangez, demandez un Doggy Bag. Il faut que les mentalités changent, bordel de merde. Bref, vous l'aurez compris, avec ce sujet de gaspillage alimentaire, on le sait tous, tout le monde a de bonnes intentions, mais personne ne veut faire évoluer la situation de son côté. Parce que votre supérette, elle ne peut pas se permettre de ne pas avoir assez de fruits et légumes. Elle préfère en jeter plutôt que vous ne veniez pas plus chez elle, car cela lui coûte moins cher d'acheter trop de bananes, par exemple, que d'en jeter aussi, plutôt que de compter sur ce qu'il lui faudrait de façon juste et de prendre le risque de perdre un client qui va également acheter des pâtes, des tampons, des croquettes pour chiens, des pop-it, par exemple, pour le gamin, et je ne sais encore. Oui, ça coûte moins cher de jeter. Et on ne va pas parler des emballages fraîcheurs des morceaux d'ananas découpés sous film plastique ou de 12 grains sous film plastique, 12 grains de raisin. Excusez-moi, je précise parce que j'ai halluciné quand je l'ai vu sur Twitter. Bref, ça m'a beaucoup choqué. Bref, dans ce monde, on marche sur la tête. Alors, si vous avez une solution pour faire changer les mentalités des producteurs industriels et consommateurs, faites-le savoir immédiatement, car je crois que le gouvernement vous cherche. Sur ce, je vous dis vive les politiques qui font bouger les choses et vive la politique.
Merci Ronan. Après une première partie sur l'état des lieux de la cuisine et de l'alimentation dans le monde, et une deuxième partie sur la cuisine 2.0.
Et oui.
Je vous propose une autre partie sous l'angle santé et bien-être. Les Français modifient leur habitude alimentaire de plus en plus. Ils mangent moins de viande qu'avant et de plus en plus de produits locaux et bio. Ils s'intéressent aussi davantage à l'environnement et à leur santé. Plus de 70% des Français consomment des aliments bio au minimum une fois par semaine et 14% tous les jours. Et 37% des restaurants ont du bio. Et certains aliments font plus de bien que d'autres. Quels sont les aliments bien-être, voici la liste de Madame Coccinelle. Et c'est l'heure de parler bien-être, développement personnel avec Madame Coccinelle.
Alors, en cuisine, il est aussi essentiel de se faire plaisir. De nombreux aliments aideraient à se sentir mieux, à combattre le stress et redonneraient de l'énergie. Savez-vous que certaines graines ou baies que l'on ajouterait à nos plats feraient même office de médicaments? On les appelle d'ailleurs les alicaments, tant leurs vertus sur notre santé sont nombreuses. Je vous propose de découvrir ou de redécouvrir 6 de ces super aliments. D'abord, les graines de sésame pour la jeunesse et la bonne humeur.
C'est bien à savoir.
Elles sont riches en vitamine B6 et jouent un rôle important dans la synthèse de neurotransmetteurs, comme la sérotonine, l'hormone du plaisir, ou la dopamine, l'hormone du bonheur.
Et je crois qu'on n'a pas beaucoup en ce moment, mais compléter avec du soleil, ça fait beaucoup de bien, c'est pour le bonheur aussi, il me semble bien.
Exactement, puisque consommer du sésame nous rendrait joyeux.
Théoriquement,
les graines de sésame auraient le pouvoir de nous aider à rester jeunes, c'est pas formidable.
Extraordinaire.
Est-ce que c'est pour ça que petit Manu s'en met plein dans les cheveux?
En tout cas,
on va le saupoudrer tous les matins.
J'écoute avec grande attention, comme toutes les coutes, on est bouche bée, hein. Franchement, fantastique.
Bah oui, parce qu'elles ont des vertus antioxydantes qui jouent un rôle capital dans le ralentissement du vieillissement cellulaire. Alors, n'hésitez plus à en saupoudrer dans vos préparations sucrées comme salées ou à en consommer à l'apéro en remplaçant les chips par une tartine de houmous. Mettre un peu d'Orient dans les plats.
Ça nous fait voyager.
Exactement. Alors ensuite, nous avons le saumon pour protéger notre cœur. Le saumon contient 0,5 à 1,5 g d'oméga-3 pour 100 g. Les oméga-3 aident à lutter contre l'excès de cholestérol et grâce à leurs vertus anti-inflammatoires, ils rendraient optimistes.
Alors moi j'en consomme mais dans ma margarine. C'est vrai, je prends de la margarine à l'oméga-3.
Même des gélules.
Et je comprends pourquoi les ours et les grizzlies aiment beaucoup en manger. Ils se régalent. Inconsciemment, ils sont intelligents eux-mêmes.
Le saumon est ainsi non seulement un aliment bénéfique à la santé cardiovasculaire, mais aussi peu calorique, avec seulement 200 calories pour 100 grammes. Une bonne raison de le mettre dans nos menus. Ensuite, les lentilles, pour nous donner de l'énergie. Blondes, vertes, brunes, rouges ou corail, peu importe leur couleur, et bien que délaissées de nos cuisines, les lentilles sont très intéressantes au niveau nutritionnel.
Et je crois que ça donne le, c'est très bon pour le fer.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Ah bah,
riche
pas.
En protéines, riche en fer. Elles ont également une importante teneur en glucides. 100 grammes de lentilles cuites pour 13 grammes de glucides. Elles permettent de stimuler l'organisme en augmentant notre tonus. Grâce à leur richesse en fibres, les lentilles permettraient de lutter contre certains types de cancers, comme celui du côlon, le diabète de type 2 ou la constipation. Alors n'hésitez pas à remettre cette légumineuse dans vos assiettes. Poursuivons avec la noix pour favoriser la relaxation. Les noix sont connues pour leur teneur importante en magnésium, avec 133 mg pour le quart d'une tasse.
Ouais, mais moi ça me donne des aftes.
Ah oui. Après, il faut aussi les casser, c'est pas toujours évident.
Ouais.
L'apport quotidien recommandé en magnésium, afin de permettre à l'organisme de bien fonctionner, est d'environ 300 mg par jour. Le magnésium joue un rôle important dans le métabolisme de l'énergie et il joue un rôle essentiel dans la transmission nerveuse et dans la relaxation, un processus vital pour la fonction cardiaque. Pour favoriser la détente et le bien-être, n'hésitez pas à mettre la noix au menu de vos collations. Je vais passer à un aliment que j'adore, je pense que c'est pareil pour vous.
L'alcool.
Alors, aussi, mais pas que, on va dire moins nocif. Ah. Le chocolat.
Ah.
Le chocolat, qui n'aime pas le chocolat?
Tu nous donnes faim, là.
Ah oui, un antidépresseur naturel. Et oui, fini la culpabilité. Cet aliment que l'on surnommait le don des dieux chez les Mayas, a été introduit en Europe en 1577 en tant que médicament censé soigner les humeurs. En 2022, on continue de reconnaître au chocolat, et notamment au cacao, de puissantes vertus. Aphrodisiaque, n'est-ce pas messieurs ? Apaisante, relaxante, grâce à sa haute teneur en nutriments et en magnésium, le chocolat rendrait ainsi heureux.
Je comprends pourquoi on n'est jamais triste dès qu'on coupe un carré de chocolat.
Eh oui.
Non mais moi, c'est vrai, hein, regarde, mes 16 Kinder Bueno par jour, ben je suis heureux.
Alors Didier, attention, attention, il faut le consommer, on va le préférer noir, pas blanc, pas
oui,
au lait,
c'est ce que
avec
je préfère.
Au moins 70% de cacao.
Ouais, c'est ce que c'est je amère. Préfère, c'est ce que je préfère.
C'est amer. Avec des noisettes et tout, c'est bien, non, non.
Bon, bon, on aime tous le chocolat. En tous les cas, il faut en consommer un antidépresseur naturel. Je le recommande vivement. Et pour finir, un petit fruit qui nous provient de Chine, le goji, ou plutôt les baies de goji. Voilà, ce petit fruit chinois vendu séché ou sous forme de jus. En Asie, vous savez comment est-ce qu'on l'appelle?
Non.
Non? La plante du bonheur. Mais il y a d'autres noms qu'on lui donne. Hein. La baie du sourire. Ou encore le fruit de la jeunesse éternelle.
Ah.
Quoi? Hein? Et pour cause, les baies de goji sont riches en antioxydants. Elles protègent le foie, les reins, les organes de la vision. Elles stimulent le système immunitaire, traitent l'infertilité masculine et les troubles respiratoires. Elles protègent aussi le cerveau en ralentissant le vieillissement neurologique et combattent la fatigue, la faiblesse, ce qui font d'elles un super aliment. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire preuve d'inventivité pour allier santé et cuisine. Alors, à vos fourneaux et bon appétit si vous êtes encore à table.
Merci Madame Coccinelle.
Et bravo.
Alors là,
ah bah
la,
oui,
première,
pour la première,
c'est bien passé.
Ouais, j'avais pris un petit peu de chocolat juste avant.
Allez, avant d'ouvrir notre page culture, passons au record du monde de cuisine. Il y en a tellement qu'on a décidé de se recentrer sur les pâtes, car les Français sont beaucoup plus nombreux à préférer les pâtes, 67%, que les frites. Et oui, 30%. Pierre nous détaille quelques records de pâtes. Sport, exploit, record.
C'est un record de longévité, mais c'est pendant 27 heures, 3 minutes et 44 secondes. Le précédent record était de 26 heures. Il a interprété 300 morceaux, de Gershwin à Britney Spears, en passant par Beethoven et le Gangnam Style, le Psy.
Pierre nous parlera performance.
Pierre qui roule, Nabas, pas mousse.
Eh ben, Manu, si t'as rien à dire, tu peux rien dire.
Et tu poses une question, j'essaie de répondre.
Non.
Un peu d'imagination.
Et oui, cette semaine, on parle cuisine. On parle d'un des aliments les plus consommés au monde avec le riz. Je pense qu'il s'agit, vous l'avez compris maintenant,
je pense des pâtes. Je pense.
Exactement. À une nouvelle superbe, claire, nette, précise, que dis-je, limpide explication de Petit Manu, ou presque.
Oui.
Nous commençons donc sans plus attendre avec un record français. Et oui, les pâtes, c'est italien, et pourtant, c'est un record français, datant de 2014, qui nous emmène droit vers Périgueux. Et oui, même là-bas, on bat des records.
Ah,
ce record a été réalisé par des étudiants de l'IUT de Périgueux, qui s'affairent pour travailler par la suite dans l'agroalimentaire, étant donné que c'était il y a 4 ans, c'est sans doute déjà le cas aujourd'hui. On les embrasse. Alors, ces jeunes hommes ont décidé de fabriquer, de créer le plus grand spaghetti du monde, et bien en un seul morceau. Le précédent record était détenu par des Belges, donc toujours pas des Italiens, qui a confectionné un spaghetti de 80 mètres de long, ce qui est déjà pas mal, puisque c'est presque la longueur d'un terrain de foot. Et oui, tout nous ramène toujours au foot. Eh bien, ce record a été battu, que dis-je, pulvérisé. Et oui, vous voyez ma question venir. Combien qui mesurait le spaghetti de Périgueux, d'après vous?
100 mètres?
Ouais.
Eh bien non, il mesurait 1 km de long.
C'est énorme, Pierre. Oh là là, 1 km.
C'est tout simplement 12,5 fois plus que le précédent record. Et oui, car question rapidité, Manu, 80 fois 12,5, ça fait combien?
Oh là là, c'est un nombre, j'ai pas
42.
Calcul. Voilà, 42. Eh bien, mais c'est la folie des grandeurs, mon cher Pierre.
Ça fait 1000, je te l'ai fait dans l'inverse opération, c'est pour ça. Et 1000 mètres, c'est combien de kilomètres, Manu?
Oui, bah oui, c'est à toi qui poses la question, c'est Manu.
Oui,
10, bien sûr.
Bah, 10. Mais j'ai alors, excuse-moi, Pierre, j'ai beaucoup de mal à t'entendre parce que c'est vrai que dans mon cas, j'entends mal. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre.
Ouais, c'est ça.
Mais
c'est
vrai, c'est l'excuse. Non, c'est la réalité. Mais je t'écoute avec la plus grande attention, avec beaucoup de mal. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre. Je précise.
Aujourd'hui, 1000 mètres, ça fait 10 km.
10 km. Ah, bah oui, t'avais raison de dire.
Nous poursuivons avec d'autres records, mais des records italiens cette fois. Car déjà qu'on les bat sur les spaghettis, je ne voudrais pas les froisser non plus. Donc on va parler un peu d'eux quand même. Sachez que l'on dit souvent que la France est le pays de la gastronomie, ce qui est vrai sur des aspects, mais l'Italie est également un pays très calé en gastronomie. Faisons un petit tour d'horizon. Les pâtes, les pizzas, les glaces, le jambon, le parmesan, les olives, et j'en passe. Sachez d'ailleurs qu'en 2017, l'Italie a battu son record d'exportation de produits alimentaires en valeur. C'est-à-dire qu'en 2017, l'Italie a exporté pour 41 milliards d'euros de nourriture, dont...
Oh là là.
Nous allons donc nous intéresser à un record détenu par un Italien avec un produit italien. Il s'agit de la mozzarella.
Ah oui, c'est vrai, probable.
Plus précisément du concours de mangeage ou d'ingurgitage de mozzarella. Ce n'est pas un concours de quantité, mais un concours de vitesse. Le but ici étant de manger 500 grammes de mozzarella le plus rapidement possible.
Ah oui.
Mais surtout, sans les mains. Sinon, c'est pas cool.
Ah bon?
Mais comment on mange alors?
Eh bah oui, très bonne question.
On a les mains dans le dos, on a une assiette devant soi, et on penche sa tête dans l'assiette, et on mange la mozzarella comme ça.
Ah oui, bon, bah, c'est assez...
Oui, c'est assez original.
Voilà.
Ouais.
Eh bien, sachez-le, chers auditeurs et auditrices, vous serez heureux et heureuses d'apprendre que si vous souhaitez vous attribuer ce record, il vous faudra manger ces 500 grammes de mozza sans les mains en moins d'une minute et 38 secondes. Le précédent record était d'une minute 50, il est désormais de 1 minute 38. Nouvelle question, piège Petit Manu, quel temps maximum faut-il donc faire pour se voir attribuer ce record?
Eh ben, il vient de le dire, Petit Manu, hein.
Bah, si j'ai bien compris, on mange sans les mains, le plus rapidement possible.
Oui,
et
mais
c'est assez spécial, quoi, si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu ce que t'as dit.
Combien de temps?
Oh, bah, comment? En moins d'une minute? Bah, 60 secondes, quoi.
En moins d'une minute, c'est bon. Le maximum étant 1 minute 37, puisque le record était.
Ah, 1 minute 38, 37, hein. Voilà.
Voilà, ça, c'est logique. Mais bon, on sait que les maths, c'est pas trop ton fort.
C'est pas tellement facile.
Et le français non plus.
Et les autres matières.
C'est pas tellement facile, je reconnais.
Et l'histoire géo non plus, hein. Où se trouve Munich, Petit Manu?
En Allemagne, mon cher.
Oh,
j'ai pas tout perdu mon histoire géo, je te rassure.
Où se trouve Hong Kong?
En Chine. Je crois que notre cher Didier connaît, il a été en vacances. Eh oui.
Non, j'étais au Japon.
Au Japon, François, voilà. Mais continue.
Oui, c'est pareil.
Ouais, enfin, c'est un autre droit. Reprends, mon cher Pierre. Je réponds à notre cher Daniel à cette petite question innocente.
Eh bien, ça touche à sa fin, puisque les amis, on a parlé nourriture, on a parlé pâtes, on a parlé record. C'était lourd, c'était long, c'était copieux, et ça fait déjà pas mal à éliminer.
Merci, Pierre. Et c'est l'heure d'ouvrir notre page culture, comme disait Dorimène dans le bourgeois.
Le bourgeois gentilhomme, eh oui.
De
Jean-Baptiste Poquelin, Molière.
Molière.
Il y a beaucoup d'interprétations, mais Molière aussi. Évidemment.
C'est merveilleusement assaisonné, la bonne chère, que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. La cuisine, c'est comme le sport. On est plus motivé grâce à la musique. Et Kevin va nous présenter sa playlist spéciale cuisine.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Là, je vais me porter sur un truc.
Mais sautez.
Et vous allez voir, ou plutôt entendre, chers amis, qu'il n'y a pas besoin d'être un grand cuisinier ou une grande cuisinière pour goûter à ce fameux quiz spécial cuisine. Je vous propose 5 titres et à vous de reconnaître de quel chanteur ou chanteuse il s'agit. Eh bien, on entre tout de suite dans le thème avec une grande chanteuse. De qui s'agit-il ?
Les celles qui faisaient Florès en robe de Dior.
Régine.
Et sac d'Hermès.
Non.
Rangée dans le musée Grévin du Ciné-Club.
Alors, c'est la compagne de Romuald.
Autant jolie du poivre et sel et du bigoudi.
Mais pensez à Romuald et...
Romuald et...
La cuisine innée et... qui retient...
À votre avis, ça commence par un J.
Qui se débile.
Gigi.
Eh ben, dis donc, vous êtes un culte.
Non, mais... Gigi Lelan... Julie
Lescaut.
Non, c'est Reggiano.
Alors, il y a Juliette, effectivement, Lio.
Ah. Juliette.
Greco.
Oui. Et elle a même fait une chanson, Jolie Môme, après, un de ses grands tubes aussi. Juliette Greco aussi.
Et oui, Juliette Greco, avec ce titre, La Cuisine, chanson de 1961.
La Cuisine.
Ah, pardon.
La cuisine. Chanson de 1961, Juliette Gréco qui nous a quitté le 23 septembre 2020 à l'âge de 93 ans. Et d'ailleurs, c'était une très belle femme. On enchaîne avec une autre chanteuse, je pense que vous allez la reconnaître.
Italienne aussi.
Avec Banana Split. Voilà.
Et je sais qu'elle a beaucoup d'enfants aussi. Puis elle fait partie des chanteurs à la mode. Olivier Kiefer, qui font les hits. Elle a pas froid aux yeux. Oh là 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 là.
Et oui, elle s'appelle Lio comme toi, Lio.
Non, mais c'est un pseudonyme parce qu'elle a un prénom assez composé. Je pourrais pas dire n'importe quoi, mais elle a pas froid aux yeux. Hein. Et je crois qu'elle chante avec sa fille aussi, sur scène aussi.
Et oui, Lio avec.
Banana Split.
Est-ce que vous en avez déjà mangé ici?
Ah oui,
des
ça pêche mignon. Oh là là là. Ça dépend.
C'est calorique. Hein,
comment?
C'est calorique.
Ah, oui. Il faut en manger aller au moins une fois tous les deux mois.
Ah. Et faire du sport, ça fait pas de mal.
Si on fait du sport à côté, c'est pas
bien.
Mal.
C'est bien. Tout à fait.
Et oui, Lio avec Banana Split, chanson de 1979, sans doute l'une de ses chansons les plus connues. On enchaîne avec une autre chanteuse, une américaine cette fois. If you're going to the
kitchen.
Alors le titre c'est Kitchen, oui, Kitchen Song. Alors la chanteuse, je vous rassure, je la connaissais pas non plus. Hein.
C'est quoi ces questions?
Alors elle s'appelle Tessa Violette.
Ah,
ça vous dit quelque chose parmi vous?
Non, connue, mais
c'est une chanteuse américaine de 32 ans et cette chanson s'intitule Kitchen Song, qui veut dire
la chanson de la cuisine.
En effet. Alors là, cette fois-ci, c'est un chanteur, je pense, un français. Je pense que là, vous allez le reconnaître de qui il s'agit.
Des cornichons, de
c'est un certain Léo Ferrer.
Absolument, et, petit Manu. Léo Ferrer.
Gâteau, le téléphone qui sonne. Il n'y a jamais
c'est pas
personne.
La même chose.
Non, mais je sais, mais
c'était Léo Ferrer, effectivement, voilà, qui chantait ça aussi.
Et je crois qu'il fumait les cigares à l'époque. C'était à l'époque.
Et Nino Ferrer, qui est aussi l'interprète d'une autre chanson célèbre, Le Sud.
Ah, tout à fait, oh là là. Et tu fais bien de le dire.
Mais cette chanson s'intitule donc Les Cornichons, chanson de 1966. Nino Ferrer qui nous a quittés en 1998. Et on termine avec un autre chanteur français.
Donnez-moi, madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger.
Du ketchup pour mon hamburger.
C'est pas le nom du chanteur. Hein.
Burger. Hamburger.
Non, il s'appelle pas comme ça le chanteur.
Ketchup. Non, le titre.
Non.
Mais le chanteur, c'est qui, à votre avis?
C'est un chanteur, oui, je cherche sur le bout de la langue. Oui, c'est.
Moi, je la connais, cette chanteuse.
Oui, moi aussi, mais Tony.
Moi aussi.
Alors, il s'appelle William.
William Scheller. Et c'est super titre qui a rendu à la mort. Un homme heureux aussi, William Scheller aussi, tout à fait. William Scheller, oh là là, un grand chanteur anglais, aux yeux bleus.
Oui. Préciser. Alors, William Scheller avec ce titre Rockin' Dollars. Je crois que c'est l'un de ses premiers titres, hein, sorti en 1975. Et c'est comme ça qu'il s'est fait connaître du grand public, d'ailleurs. Est-ce que, alors, dans cette chanson, il évoque effectivement les hamburgers. Qui adore les hamburgers parmi vous?
De temps en temps, mon fameux Munich.
Mais les hamburgers de. Alors, je sais pas si on peut citer des marques, mais de chez qui?
Oh, bah non, faut les faire maison.
Ah,
c'est meilleur.
Ah, tu les fais maison?
Oh, bah oui. Bah,
Madame Coxina, c'est bien, c'est bien.
Elle, c'est plus. Elle, si.
C'est vrai.
Ah, bah, t'aurais dû nous en ramener. Tiens.
Ah, bah, la prochaine fois.
Ah, bah, pourquoi pas?
Avec plaisir.
Avec plaisir.
Mais tu sais qu'ils font des hamburgers sucrés?
Sucrés?
Ouais. J'ai vu ça.
Eureka.
On citera pas la marque.
Alors, c'est plus pour ça irait peut-être plus pour le goûter ou pour un casse-croûte.
Alors là, j'apprends. Understood.
À base de pâte à tartiner.
Oh là là.
Miam.
Oh là là. Célèbre.
Chocolaté.
Chocolaté.
Eh bien, j'en profite pour citer, bon, pardon, pour souhaiter plutôt un bon appétit à nos auditeurs.
Et Kevin aussi, à l'époque des groupes, c'était les femmes, la sketch-up, elle chantait comme ça. Tout à l'heure, t'en as parlé, ça m'a amené à l'esprit.
Bah, fais-nous la chorégraphie.
Oh non, je préfère pas parce que je préfère bien garder ta bonne chronique. Si je chante, ça va être, oh là, catastrophe. Enfin, je préfère pas
demander de chanter de la chorégraphie.
Non, elle dansera plusieurs, je suis seul. Mais par contre, allez le voir sur YouTube, Internet, et c'était vraiment des super. Chanteux, la SketchUp, on pourra en parler dans ta super chronique.
Merci à tous.
Ben merci Kevin, et tu nous as mis l'eau aux oreilles. Après nous avoir mis l'eau à la bouche en parlant cuisine, enchantons nos yeux avec du cinéma. Marilyn va nous parler de cuisine au 7e art.
Entre la cuisine et le cinéma, c'est une histoire d'amour.
Oui.
Au cinéma, beaucoup de scènes de vie emblématiques se sont déroulées autour d'un repas. Plusieurs films nous ont fait adorer ou détester certains aliments. Popeye et ses épinards, Ratatouille et son fameux tian, ou encore Garfield et ses lasagnes à la bolognaise.
Oh, j'ai envie de lasagne.
Oh là là, ça me donne
faim. Vous avez déjà l'eau à la bouche?
Les sept péchés capitaux, la gourmandise. Aïe. Oh là là.
Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore regarder des documentaires ou des émissions sur la cuisine en mangeant. Je suis tombée par hasard il y a quelques semaines sur la série américaine Chef Table. Est-ce que vous connaissez?
J'en ai entendu parler.
Non,
mais... vaguement.
Mais moi, ça me déprime parce que tu regardes, tu dis c'est si beau à la télé, puis tu regardes ton plat.
Après chez soi, on
pareil.
Le blues, quoi.
C'est imaginé comme un voyage gustatif. On dîne visuellement chez les plus grands chefs du monde. Je vous conseille tout particulièrement la magnifique et très réussie Chef Table Pizza. Cette série est exclusivement dédiée à l'art de la pizza. Mais alors, qu'est-ce qui fait une bonne pizza? De Portland à Tokyo, 6 chefs font de la pizza un véritable art. On découvre les chefs Chris Bianco, Gabriel Bonsi, Ann Kim, Franco Pepe et Yoshiro Iman, ainsi que Sarah Minik.
Ils sont pas italiens ou un peu d'origine asiatique?
Alors, il y a des Italiens, il y a des Asiatiques, il y a des Américains, il y a de tout.
C'est international, en
tout cas. Tout à fait. Chacun d'eux s'attelle à réinventer la pizza. Personnellement, l'épisode qui m'a le plus marqué est celui de Yoshiro Iman, fondateur du restaurant Monk. Ces pizzas au feu de bois sont garnies d'ingrédients locaux et de saison. Ça m'a fait saliver. Originaire de Tokyo, il s'est installé à Kyoto pour ouvrir son restaurant. Il a fait de sa pizza un art nippon, décalé et impressionnant. Par exemple, une pizza au maquereau japonais.
D'ailleurs.
Et il n'y a pas de sauce tomate, il n'y a que du maquereau et un tout petit peu d'épices.
Et ça a quel goût? Parce que c'est vrai que ça sort de l'ordinaire.
Je ne sais pas, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, je vais la manger.
Mais c'est curieux, ça fait penser, c'est un peu comme en Angleterre, des fois le matin, ils mangent de la charcuterie, c'est un peu, ça sort de l'ordinaire, quoi.
Et bah, prends un voyage pour le Japon et tu me diras.
On ne sait jamais, c'est noté. Si un jour j'y vais, on ne sait jamais, c'est pas de mal à veille, je pense.
Alors attention, pour cette série, il y a beaucoup de travelling et de zoom très sensuels sur les ingrédients et les plats. À ne surtout pas regarder lorsqu'on a une petite faim. Dans une autre ambiance, lorsqu'on parle de cuisine, il est aussi important de parler des conditions de vie des employés des restaurants. Quoi de mieux que le grand écran pour le montrer? Avez-vous déjà vu le film anglais The Chef de Philippe Barantini, sorti en 2021?
Non,
je connais pas, monsieur.
C'est l'un de mes coups de cœur. Nous sommes la veille de Noël. Les rues sont froides. Tout le monde veut aller au restaurant. Nous suivons l'aventure de Andy, chef étoilé d'un restaurant londonien. Le chef semble tourmenté dès les premières minutes du film. À l'intérieur du restaurant, on navigue entre chaque employé au rythme du service du soir qui va bientôt commencer. Petit à petit, on découvre que rien ne va. Il manque du personnel, des aliments, de la vie, tout simplement. Et de leur côté, les clients sont toujours plus exigeants et toujours plus détestables. Alors ne parlons même pas de l'actionnaire du restaurant qui, lui, harcèle et critique. Ce qui est fascinant, c'est que l'on découvre le quotidien de chaque employé en le suivant dans le restaurant.
Oh, tu sais, du moment qu'il crache pas dans les plats.
Bah oui.
Non, il ne crache pas, mais il souffre. De la cuisine à la plonge, tout le monde a ses problèmes. Autour d'Andy, notre protagoniste, la pression s'accumule et l'intensité de ses addictions, l'alcool et la coke, s'accumulent aussi. Alors on se demande à chaque fois, est-ce qu'il va tenir le coup ? Dans l'intimité de The Chef, le rythme est soutenu et ça prend aux tripes. Pour la petite anecdote, le réalisateur avait travaillé de longues années dans des restaurants et souhaitait transposer son ancien quotidien dans le film. Bref, si vous cherchez un bon film, réaliste, à voir sur la cuisine, il y a The Chef.
Bah c'est noté. Merci Marilyn. Moins stressée, ça y est, ta première est passée. Et cette émission spéciale cuisine en partenariat avec journeemondiale.fr, c'est déjà fini.
Oh non.
Mais si vous avez loupé le début de l'émission ou si vous voulez la réécouter, l'émission est rediffusée sur de nombreuses radios, vous aurez la liste sur bigbankstation.fr. On se quitte avec un proverbe, Kevin.
Et je vous cite un proverbe chinois pour clôturer cette belle émission sur la cuisine. Un feu trop violent ne permet pas une bonne cuisine.
Et mon cher Didier, aujourd'hui c'est à Saint-René, on pense malheureusement au musclé, le René qui est décédé, et on pense à René Grolier avec Michel, que je faisais une émission. René Grolier, un grand chanteur, et c'est un chanteur, et tous les Renés, on vous salue amicalement.
Et les Renés et eux?
C'est au masculin, mais pourquoi pas, après il y a bien des chefs cuisiniers.
René Taylor, qui jouait la mère de Miss Fine dans Une nounou d'enferme.
Voilà, tout à fait, René, à vous, bonne fête, et on vous salue amicalement dans le monde, la planète, c'est votre fête, voilà, fête.
Et la semaine prochaine, ça sera une émission spéciale.
Ah oui, on va se déguiser, quoi.
Salut à toutes et à tous.